Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous continuons notre série d'informations sur ce qui nous attend dans ce monde nucléarisé et hyper nucléarisé que nous habitons, nous, Français. Nous étions arrivés à l'idée reçue numéro 7 la semaine dernière, et c'était assez compliqué puisqu'il s'agissait d'évaluer, de se faire une petite idée du coût du nucléaire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre tarte à la crème de tous les gouvernements, la tarte à la crème du chômage. Chaque fois qu'un gouvernement veut faire passer quelque chose, il dit toujours « c'est ça ou le chômage ». De Gaulle disait « c'est moi ou le chaos ». Et la formule a été reprise et aménagée par la suite, mais c'est toujours la même chose, c'est du chantage. Et du chantage qui n'est absolument pas étayé par la moindre poussière de vérité. Alors, on prétend que l'arrêt du nucléaire, c'est 200 000 chômeurs de plus. Ah bon? Je dois préciser, ou même vous rappeler, que la brochure du mouvement Utopia, que je vampirise allègrement, est déjà une dizaine d'années. On peut imaginer que ça relativement peu évolué. Voilà. L'industrie nucléaire emploierait au maximum 100 000 personnes en direct, 23 000 à EDF, 55 000 au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, et Areva. Areva devenu Orano, hein. Et de 20 à 25 000 sous-traitants. Alors s'il y a une notion qui a évolué certainement de façon importante, ce sont les 25 000 sous-traitants. Parce que l'entretien des centrales nucléaires est de plus en plus assuré par des sous-traitants intérimaires, et c'est ce qui cause le maximum de problèmes, parce que une centrale nucléaire, c'est pas comme une scierie ou comme un haut fourneau, c'est un petit peu plus compliqué et surtout beaucoup plus dangereux. Alors nous disions donc que l'industrie nucléaire employait environ 100 000 personnes en direct, comme on dit, donc 23 000 à EDF, 55 000 au Commissariat à l'énergie atomique et à Areva Orano. Et de 20 à 25 000, je dirais probablement le double en 2022. C'était donc de 20 à 25 000 sont des précaires employés par des entreprises sous-traitantes en 2010. En plus, 100 000 à 200 000 autres emplois sont assurés par ce qu'on appelle le tissu industriel autour des centrales. Tous les commerces qui vivent de l'activité de la centrale, autour, etc. Bon, pour 58 réacteurs, ça fait quand même un petit peu de monde. Mais le nucléaire est une industrie très centralisée et donc très économe en emploi, comparativement aux autres énergies produites. Une centrale nucléaire, dans sa phase de fonctionnement, n'emploie que 250 personnes. Sans rentrer dans une analyse comparative forcément complexe des emplois générés, à production égale de kilowattheure par type d'énergie, une production en unité de taille modeste, décentralisée et à productivité moindre, devrait, en toute logique, demander plus d'emplois. C'est un petit peu la même chose que pour l'agriculture bio ou paysanne par rapport à l'agriculture intensive. L'agriculture bio et paysanne emploie beaucoup, beaucoup de monde. Alors que l'agriculture intensive est capable de produire beaucoup avec un potentiel de tracteurs énorme et un potentiel humain extrêmement réduit. La CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, a analysé le scénario Négawatt, dont on vous a parlé souvent, et montre que les mesures d'accompagnement qui permettraient de baisser les gaz à effet de serre de 30% créeraient 684 000 emplois. Ça, c'est la brochure publiée par WWF en 2008. En Allemagne, on estime que 340 000 emplois ont été créés ces 10 dernières années dans le domaine des renouvelables et de l'efficacité énergétique à la suite de la volonté de sortir du nucléaire. En échange de l'EPR de Flamanville et de ses 6 milliards d'euros qui se sont doublés depuis, grâce aux renouvelables, on aurait pu produire dans le Grand Ouest davantage d'électricité et créer 15 000 emplois pérennes et non délocalisables. Par ailleurs, les emplois créés dans le renouvelable présentent des conditions de sécurité au travail sans commune mesure avec celles existant aujourd'hui pour les travailleurs de nucléaire, dont près de 25 000 sont des précaires employés par des entreprises sous-traitantes. On en reparlera. Quant aux travailleurs spécialisés dans le nucléaire, le démantèlement des centrales et la gestion des déchets devraient leur garantir du travail pendant de nombreuses années. Oui, Brennilis, par exemple, est en démantèlement depuis plus de 20 ans. Ils ont encore du boulot devant eux. Loin de détruire des emplois, l'arrêt du nucléaire permettra donc, au contraire, de créer massivement des emplois supplémentaires tout en supprimant la dangerosité actuelle. Ces éléments sont issus d'une étude réalisée par le cabinet d'experts Les Quatre Vents du Cotentin à la demande de Greenpeace. Un grand plan de reconversion des salariés actuels du nucléaire, piloté par l'État, pourra être mis en œuvre afin que les salariés actuels s'orientent vers une production liée aux nouvelles formes d'énergie, ce qui répondra à l'inquiétude des syndicats de l'énergie mis en face du chantage à l'emploi. Et maintenant, figurez-vous, il paraît que le nucléaire est une technologie transparente et démocratique. Oui, c'est l'idée reçue numéro 9 que nous allons tortiller. Dans le nucléaire, toute objection était rejetée comme obscurantiste, toute velléité de contrôle démocratique et populaire écartée, sous prétexte que la complexité technique de la question n'était pas à la portée du peuple, n'était à la portée que des spécialistes. Dès le départ, l'option nucléaire s'annonçait incompatible avec la démocratie, disait André Gors dans Écologie politique en 1975. Le nucléaire, contrairement à toutes les autres industries qui produisent et fournissent un bien public essentiel, le nucléaire ne fait pas partie de l'espace public. Ni les citoyens, ni les politiques, ni les médias n'ont accès à une information plurielle et transparente. Michèle Rivasi, ex-présidente de la CRIRAD, dont je vous ai parlé souvent, Michèle Rivasi a commenté ce mot de transparence. « Ce mot « transparence » est incompatible avec le nucléaire. Je ne m'imaginais pas que l'on puisse mentir comme ça aux gens. » C'était une interview d'Arte en 2009. Qualifier de démocratique une industrie dont la complexité et la dangerosité rendent impossible un véritable débat citoyen est un mensonge. L'usager est de fait contraint d'abandonner toute forme de contrôle au profit d'une autorité d'experts. Historiquement, comme on l'a vu, le nucléaire civil vient du nucléaire militaire, ce qui peut expliquer cette culture du secret. Certes, beaucoup d'organismes nationaux et internationaux ont été mis en place, ainsi que des responsables de communication, dans les firmes nucléaires pour contrer cette critique. Mais les États contrôlent fortement ces lieux et organismes dont la transparence s'arrête toujours au secret d'État, ou au secret simplement commercial. L'arrêté du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires détaille, en son article 1, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers devant faire l'objet d'une classification et de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Donc on voit tout ça, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées et fichiers, ça fait beaucoup d'éléments qui doivent être protégés et dont on doit restreindre la diffusion. C'est dans un arrêté. C'est donc tout à fait officiel. Secret d'État. On oppose ainsi au droit démocratique d'information des citoyens un droit au secret très élargi, alors qu'il s'agit de risques fondamentaux pour eux et pour tous. De même, l'AEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, agence de l'ONU chargée de la promotion du nucléaire civil dans le monde, contrôle toute l'information officielle relative aux effets de la radioactivité sur la santé publique, pour en minimiser la réalité. Elle est aidée en cela par l'autorité de censure préventive qu'elle exerce sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, grâce à une convention datant de 1959, qui prive cette autre organisation onusienne de toute réelle indépendance d'expertise et d'information du public sur le sujet. Les mesures de surveillance, le confinement, la protection physique, le suivi et la comptabilité des matières nucléaires, le transport, la préparation des exercices de crise relatifs à la protection des matières nucléaires, etc., sont ainsi officiellement sous secret. Plus localement, si les choix d'implantation des nouvelles centrales font l'objet d'enquêtes d'utilité publique, si on peut dire, les études fournies mettent essentiellement l'accent sur l'intérêt financier et les créations d'emplois, toujours, pour emporter l'adhésion des collectivités locales. Donc, si les choix d'implantation des centrales font l'objet d'enquêtes d'utilité publique, une fois le site accepté, après un travail de lobbying et un chantage aux emplois, son extension ou sa transformation technologique n'est plus soumise à un avis citoyen. Clos de barbelé, mis sous surveillance permanente. Cet espace est ainsi démocratiquement retiré définitivement de l'espace public. Se promener à ses abords, faire des photos des installations, sont passibles d'amendes pour non-respect de l'arrêté du 24 juillet 2003. Quant à la gestion post-accidentelle, il est prévu qu'elle soit gérée par l'armée. Décret présidentiel de septembre 2003. Qui irait de son plein gré travailler sur un site irradié en cas d'accident nucléaire particulièrement grave? Par ailleurs, les autorités de contrôle sont loin d'être indépendantes. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est financée en grande partie par ceux qu'elle est censée contrôler en toute objectivité, le CEA, EDF et Areva Orano. On notera également que les gestionnaires de centrales sont juges et parties sur la question de la sécurité. Ils sont libres de classifier eux-mêmes leurs propres accidents et incidents sur l'échelle INES, dont on a déjà parlé, en fonction de leurs intérêts et sous la pression du politique et du lobby nucléaire. Enfin, il est très difficile pour les militants et associations de jouer un véritable rôle de contre-pouvoir. Des peines de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, et ça s'est beaucoup développé, beaucoup augmenté, ces notions-là. Les 75 000 euros d'amende, je ne me souviens plus à combien ils sont passés, mais c'est bien supérieur. Sont prévus, donc, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, sont prévus pour ceux qui dérogeraient à ce devoir de secret. Le groupe EDF a été mis en examen comme personne morale en 2009 pour complicité et recel d'intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé dans l'affaire de piratage informatique ayant visé l'un des dirigeants de Greenpeace France. Le groupe EDF a été mis en examen. Fort heureusement, des organismes indépendants ou dans des associations militantes comme la CRIRAD, laboratoire tout à fait indépendant, Greenpeace, le réseau Sortir du nucléaire, Global Chance, dont je vous parlais la semaine dernière, et d'autres encore, s'investissent aux côtés des citoyens pour informer, sensibiliser, interpeller, agir. À cette liste de gens conscients, militants et courageux, on peut ajouter les Amis de la Terre, qui sont une très très ancienne association écologiste, à la fois sincère et compétente, comme toutes celles dont on vient de parler à l'instant. Voilà dans quelle mesure le nucléaire est une technologie transparente et démocratique. Idée reçue numéro 10. Le nucléaire, c'est l'avenir, grâce à la fusion ITER. Robert Séné, professeur au Collège de France, signale « La fusion est une illusion. La fusion est une illusion, c'est l'éternel rêve prométhéen d'obtenir une énergie abondante et quasi gratuite. Depuis 40 ans, à chaque nouvelle échéance de demande de crédit, la communauté de la fusion thermonucléaire nous annonce que ça marchera et qu'une machine produisant plus d'énergie qu'elle n'en consomme sera opérationnelle dans 25 ou 30 ou 50 ans. La fusion, à l'inverse de la fission, où l'on casse des atomes avec des neutrons pour produire une énergie, la fusion consiste, elle, à rapprocher suffisamment deux atomes légers pour qu'ils puissent s'interpénétrer et en faire un plus gros. On va donc mettre autour de l'enceinte un matériau qui va récupérer, sous forme de chaleur, l'énergie cinétique des neutrons pour en faire de la vapeur. La technologie de la fusion n'est à ce jour pas la solution rêvée, les problèmes posés étant les suivants. ITER mobilise énormément d'investissements pour un résultat dont on ignore à la fois la nature et surtout l'aboutissement, le terme, qu'une dernière estimation porterait à 2060. Elle utilise du tritium, matériau très dangereux et très rare. Une dose de 1 mg de tritium est mortelle. Il y aura 2 kg de tritium, 2000 g, et 2000 g, eh ben, ça fait 2 millions de mg dans le réacteur, dans chaque réacteur. Les réacteurs sont aussi dangereux au niveau de la radioactivité que ceux utilisés dans la technologie de la fission actuelle. Les neutrons, en passant à travers les structures, vont activer tous les matériaux, créant de très importantes quantités de radioéléments de périodes plus ou moins longues. Elle ne résout pas la problématique des déchets. Et oui, c'est toujours ça, un des plus gros problèmes du nucléaire, c'est bien sûr les déchets. Concrètement, les rayonnements émis dans les réacteurs d'ITER usent très rapidement la paroi intérieure de l'enceinte, environ 5 cm par an. Cette usure nécessitera de changer une partie de ces enceintes chaque année, ce qui constituera un volume important de déchets, dont certains de très haute activité. La radioactivité des murs, du dispositif et des matériaux de construction produira lors de son démantèlement 30 000 tonnes de déchets nucléaires. Une fois le réacteur arrêté, il ne sera pas démantelable avant de très nombreuses années, comme les réacteurs actuels d'ailleurs. Comme on peut le constater, ce type de réacteur, présenté par ses promoteurs comme écologique, sans déchets radioactifs, pas de cendres contenant des produits de fission. Ce type de réacteur va produire une nuisance radioactive au moins égale à celle des réacteurs actuels, avec un coût passé de 5 à 15 milliards en 2010. ITER est un gouffre financier pour la recherche sur la fusion. Et en même temps, c'est un frein. Il vampirise le financement des énergies renouvelables. Oui, le fric qui passe dans ITER, il passe pas dans les éoliennes ou dans les panneaux solaires. Il permet par ailleurs au lobby nucléaire de se redonner une virginité sous une autre forme. Il vampirise le financement des énergies renouvelables et en particulier la recherche et le développement de ces énergies renouvelables. Il permet par ailleurs au lobby nucléaire de se redonner une virginité sous une autre forme. Oui, parce qu'on est persuadé, les gens qui sont sous l'influence des slogans EDF, etc., sont persuadés que c'est l'avenir, d'abord, ça c'est le refrain qu'a lancé De Gaulle. Ils sont persuadés que c'est l'avenir, ils sont persuadés aussi, puisque on a tellement dénoncé, et c'est ce que je suis en train de faire, et ce que nous sommes en train de faire ensemble en ce moment, on a tellement dénoncé les risques, les dangers, le coût du nucléaire de fission, qu'on est persuadé que cette fois-ci, on tient la bonne solution. On ne tient pas la bonne solution. Le 10 août 2010, dans une tribune publiée par le quotidien Libération, Georges Charpak, prix Nobel de physique, on s'en souvient, Jacques Trenner et Sébastien Balibar déclaraient « Arrêtons ITER, ce réacteur hors de prix est inutilisable ». Jacques Trenner et Sébastien Balibar sont professeurs et directeurs de recherche au CNRS et à l'École normale supérieure. Le professeur Koshiba s'est résolument opposé à ce que son pays héberge ITER, et c'est grâce à lui que la Provence a récupéré le plus dangereux des travaux pratiques de physique du monde. Quand bien même ITER ne cumulerait pas les objections techniques, s'il n'était pas ce rêve prométhéen, serait-ce vraiment un monde dépendant d'une méga-machine technologique ultra-centralisée que nous voudrions ? Eh oui. Tous les résultats de recherche dans le nucléaire aboutissent à des trouvailles du genre apprenti sorcier. Idée reçue numéro 11, le nucléaire est une réussite industrielle et économique. La renaissance du nucléaire, credo des communicants d'EDF, d'Areva Orano et du CEA, et autres Sarkozy-Besson, tient plus de la propagande que de la réalité industrielle. En fait, le parc nucléaire mondial stagne depuis plus de 20 ans. Sa part dans la production d'électricité est passée de 18% dans les années 90 à 13,6% en 2009. Cette baisse, constatée depuis 4 ans, s'accélère avec Fukushima. On dénombre 3 nouveaux réacteurs par an, alors que pour simplement maintenir le parc mondial actuel en raison de son vieillissement, il en faudrait une douzaine. La part des renouvelables a d'ores et déjà largement dépassé celle du nucléaire, et l'écart entre les deux se creuse chaque année. Ce déclin du nucléaire n'est pas seulement lié aux accidents et à l'introuvable solution pour les déchets. En plus de tous ces maux, le nucléaire est une très mauvaise affaire économique. Une étude américaine du Rocky Mountain Institute montre le caractère non compétitif du nucléaire. Pour preuve, il n'existe aucun exemple dans le monde de réacteurs nucléaires construits uniquement sur financement privé. Aux USA, la Cour des comptes a révélé que le coût final global des 75 centrales avait été dépassé de 300% par rapport au coût initial estimé. Ben, on se sent moins seul là tout d'un coup. Hein. C'est partout pareil. Dans un marché concurrentiel, les investisseurs délaissent ainsi, en toute connaissance de cause, le nucléaire. En France, la situation économique du nucléaire peut être considérée comme catastrophique. EDF, très lourdement endetté, 34,5 milliards fin 2010, et je crois que je vous ai donné les statistiques de 2022 la semaine dernière, je ne les ai pas fixées dans la tête, mais vous pouvez retourner à l'émission. EDF demande à l'État de pouvoir augmenter l'électricité de 30% en 3 ans. La dette d'EDF accroît la dette publique française pour une électricité que l'on paie 3 fois. En tant que contribuable pour la recherche appliquée et les infrastructures, en tant qu'usager pour la consommation, et en plus en tant que contribuable pour le démantèlement et les déchets. Tous les clignotants sont au rouge. Le parc nucléaire français est vieillissant. 21 réacteurs sur 58 ont atteint 30 ans de fonctionnement en 2011 et il faudra les démanteler ou les renouveler prochainement. Le PR, le chantier modèle de la renaissance du nucléaire en Europe, disait une plaquette publicitaire d'EDF, évidemment. Le PR, dont les caractéristiques datent du début des années 90, a plus que du plomb dans l'aile. Grosses difficultés et surcoûts à Flamanville et en Finlande, contestation de son avenir par nombre d'experts en raison de sa complexité et de ses coûts, échecs commerciaux à l'étranger. Alors que la France visait, avec l'EPR, 20 à 25% de la vente mondiale des réacteurs, on assiste à une perte totale de débouchés en Allemagne, en Italie, en Suisse, en raison de leur sortie du nucléaire. On assiste à un échec financier aux USA, avec Constellation Energy, ainsi qu'en Angleterre avec le rachat coûteux de British Energy. Pourtant, la France était leader avec 17% du parc mondial. Quant au retraitement des déchets, hors EDF, qui a l'obligation de passer par Areva Orano, c'est la Bérésina. Les clients étrangers préférant d'autres solutions à celle d'Areva Orano, qui a accumulé les scandales et les déficits, qui a pourtant financé une capacité de retraitement de 40% de la production mondiale. Oui, c'est pourquoi sur la route de la Hague, il y avait toujours des cortèges d'écolos qui se mettaient en travers des voies ferrées ou des routes empruntées par les convois de déchets pour s'opposer à l'augmentation des déchets à la Hague et à leur retraitement qui devient de plus en plus aléatoire. Actuellement, la Hague déborde. En France, le nucléaire n'est pas un fleuron industriel, contrairement à ce qui est encore trop défendu à gauche. Le nucléaire, c'est faire payer aux contribuables aujourd'hui et demain les sommes énormes qui devrait être à la charge de l'entreprise productrice. Le nucléaire, c'est faire aussi payer aux citoyens, notamment les plus pauvres, un enchaînement forcé à un mode de chauffage électrique qui grève de plus en plus leur budget, ainsi que celui des CAS, interpellés de plus en plus pour le règlement des factures impayées. Les CAS, les centres communaux d'action sociale que l'on connaît bien. Les CAS, interpellés de plus en plus pour le règlement des factures impayées. Décidément, même d'un point de vue capitalistique et économique classique, il est urgent de sortir du nucléaire. Et on arrive à la 12e idée dangereuse, idée reçue sur le nucléaire. Le nucléaire est géré par de grands groupes français, fiables et socialement responsables. Mon œil. EDF, créé en 1946 à la suite des nationalisations, a changé de statut en 2004, devenant une société anonyme à capitaux publics cotée en bourse. En 2011, l'État détient encore 85% du capital. Areva a été créée en 2001 par la fusion de la Cogema, de Framatome et de CEA Industries. C'est également une société anonyme dont l'État détient 73% du capital. Ses activités sont essentiellement le nucléaire. Même si l'État reste encore largement majoritaire, on assiste ces dernières années à une privatisation rampante du secteur nucléaire. Avec ses conséquences habituelles, casse des collectifs de travail au profit de l'individualisme, gain de productivité à tout prix, demande permanente d'économie de fonctionnement et donc recours aux employés à temps partiel, aux intérimaires, sous-formés et sous-payés. C'est encore contre-histoire, c'est toujours Canal Sud. Et malheureusement, c'est toujours le nucléaire. EDF, naguère fleuron de l'industrie française, dont les salariés étaient considérés et plutôt avantagés par une politique de paix sociale, EDF rentre dans l'ère du temps, de la dégradation des conditions de travail. Dans un secteur comme le nucléaire, les conséquences peuvent être potentiellement dramatiques. D'après le très officiel SN, Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, les 713 incidents significatifs répertoriés en France ont augmenté en 2009 de 14% par rapport à 2008. Et étant donné que les centrales vieillissent, actuellement, il y a beaucoup plus d'incidents et d'accidents que quand le groupe Utopia a édité cet ouvrage. Le facteur humain en constitue la cause largement majoritaire, 85%. La complexification et la constante évolution des installations et des règles d'exploitation, ainsi que les contraintes organisationnelles fortes qui pèsent sur le personnel d'exploitation, notamment lors des chantiers associés aux arrêts de tranches pour l'entretien, sont des facteurs identifiés de contribution aux événements de sûreté ou de radioprotection survenant dans les centrales nucléaires. Oui, ceci pour préciser que la majeure partie des incidents et accidents étaient dus aux facteurs humains. Les risques d'incidents liés aux conditions de travail sont donc les plus importants. On peut distinguer trois phases historiques dans la gestion de la sûreté. Dans les années 70, peu de sûreté, mais une volonté réelle d'amélioration. Puis, net progrès jusqu'aux années 90. Et enfin, malgré des normes renforcées, des dégradations à cause des pressions économiques, de mauvaises organisations et du recours massif à la sous-traitance. Pour des raisons économiques et par souplesse de production, Areva Orano et EDF sous-traitent largement la construction et la maintenance des centrales. Dans le nucléaire, pour 50 000 salariés d'EDF, environ 25 000 autres relevant d'entreprises sous-traitantes travaillent dans les centrales nucléaires françaises, réalisant les travaux que la direction ne veut ou ne peut pas confier à ses salariés. Manque de formation, mauvais partage de l'information, turnover permanent, dépassement d'horaires, pas de droit à la parole, abus du secret défense et des clauses de confidentialité. Dissimulation des incidents, déresponsabilisation sont les conséquences de ce recours massif aux sous-traitants. Pour des raisons de rentabilité, la durée des périodes d'arrêt de centrale a tendance à se raccourcir. C'est-à-dire que les périodes d'arrêt étant des périodes de, je dirais, d'hygiène nucléaire, on vérifie que tout soit en bon ordre et en état de marche. Seulement, si la période d'arrêt est raccourcie, forcément, on ira plus vite et il y a des choses qu'on ne verra pas. Et ça, c'est un énorme facteur d'accident. Le personnel est donc soumis à des cadences très fortes qui vont jusqu'au non-respect du temps de travail. Certaines entreprises ont moins de 50 salariés et donc pas de comité d'hygiène et de sécurité. Ces salariés ont un statut bien moins protecteur. Les médecins du travail, comme les syndicats, s'en occupent peu et face aux menaces économiques, ils sont fragilisés et ne sont pas en mesure d'imposer le respect des règles et des normes de sécurité. Alors là, il y a longtemps que je n'ai pas revu ce film, mais il y avait, dans nos années 70, il y avait le film Condamné à réussir, qui avait été fait par la CFDT dans les principales centrales en France, mais en particulier, il était centré en particulier sur La Hague, où j'étais allée avec plein de copains. Souvenir. Ceci pour rappeler ce qu'était la CFDT. J'ai un petit peu de peine à dire à l'époque. La CFDT était spécialisée sur les conditions de travail, hein. La CGT étant spécialisée sur les questions de salaire et s'opposant systématiquement au licenciement, tant qu'elle le pouvait. Oui, c'était leur spécialité à l'un et à l'autre syndicat. Ces intermittents supportent plus de 80% de la dose collective annuelle d'irradiation reçue par le parc nucléaire français. Comme pour l'amiante, on parle d'un risque socialement acceptable. Alors, ce qui est absolument monstrueux, c'est qu'on a surélevé le niveau des doses théoriquement acceptables. On dit, bon, vous avez droit à 50 millisieverts. Bon, supposons. On avait droit à 50 millisieverts par opération d'entretien. Et puis, un jour, on se réveille, et puis l'État a décrété qu'on pouvait aller jusqu'à 65 ou 70 millisieverts. Encore une fois, millisieverts, je les prends dans ma tête à l'instant. Je n'ai pas d'autre doc que Utopia sous la main. Donc, je ne peux pas en mettre ma tête tout à fait à couper, surtout qu'elle est un peu dure, alors. Mais c'est pour préciser le système. Si c'est trop dangereux le nucléaire, on n'a qu'à dire que ce n'est pas si dangereux que ça, puisque la dose maximale supportable en irradiation a été portée à davantage de millisieverts. Voilà. Et c'est officiel, c'est dans le journal officiel, et on ne dit rien. Mais c'est du crime organisé, ça. Et on ne dit rien. Et on se branche tout électrique. Pour permettre au nucléaire de continuer, on accepte ainsi l'exposition et les risques de mort lente d'un nombre important de personnes au nom d'un simple calcul coût-bénéfice. Il y a un parc nucléaire avec des usines dites à risque, gérées par une maintenance sous-traitée. Cette sous-traitance permet la mise en place de conditions de travail déréglementées par le recours massif aux intérimaires et aux CDD, et dans le cadre des CDI, qui sont aussi nombreux, par la gestion de travail par dose, dit Cédric Souriret, chercheur en sociologie à l'Université de Caen. Nous avons fini bientôt d'égrener les 12 malédictions de nucléaire. Courage. EDF a mis en place cette sous-traitance pour gérer l'excès de radioactivité qui n'est pas supportable par le personnel statutaire. Et oui, ceux qui sont titulaires de leur poste, on les économise. On leur évite des trop grandes radiations. Vous êtes toujours à contre-histoire. Et nous égrenons encore les 12 idées dangereuses sur le nucléaire. Le suivi médical de ces sous-traitants est inexistant. Ils forment une population nomadisée qui va de chantier en chantier, qui change souvent d'employeur. Et cela permet à EDF de ne pas être responsable de tous les accidents de travail et des maladies professionnelles imputables à l'exposition. Je vous l'ai déjà dit X fois, mais je m'en lasse pas. La traçabilité des travaux de construction et d'entretien est fortement compromise par la chaîne de sous-traitance. Cela dilue les responsabilités, augmente les risques de dissimulation de défauts, brise la chaîne de sûreté, ce qui peut conduire à de graves accidents dont on ne pourra pas forcément retrouver la source. On en arrive au point où les salariés d'EDF ou d'Areva Orano n'ont plus tous les savoir-faire des sous-traitants et ne sont plus en mesure de les contrôler. C'est phénoménal, ça. On envoie des gens au casse-pipe et ceux qui les y envoient, qui sont théoriquement spécialistes, ne sont même pas capables de faire le travail à leur place. Alors évidemment, on ne peut pas les contrôler. Pour le chantier de l'EPR, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN donc, avait alerté EDF en 2008, puis en 2011, des graves malfaçons mettant en cause la qualité de plusieurs constructions vitales pour la sécurité du futur réacteur EPR, pouvant porter préjudice à la qualité finale des structures. Oui, mais enfin, 11 ans après, on en est toujours au même point avec l'EPR. Vous êtes encore sur Canal Sud 92.2. Merci à vous. Si pour un chantier aussi emblématique et médiatique, l'ASN elle-même s'alerte, on est en droit de se poser des questions sur l'ensemble du parc. Combien de défauts sont ainsi inconnus, méconnus, voire même dissimulés par des sous-traitants, tout simplement par crainte du renvoi? Et oui, les sous-traitants, l'entreprise sous-traitante, ou bien les intérimaires qu'elle emploie, ils vont essayer de dissimuler les malfaçons qu'ils vont découvrir, parce que s'ils font du bruit autour des secrets honteux qu'ils découvrent, eh bien ils sont virés. Extrait d'une dépêche AFP. L'ASN accuse Bouygues d'avoir fait obstacle au travail de l'inspection du travail. L'ASN avait annoncé avoir constaté des irrégularités dans l'emploi des salariés d'Atlanco sur le chantier. En conséquence, Bouygues a rompu son contrat sur le chantier avec cette société de travail temporaire basée à Chypre. C'est la quatrième enquête préliminaire en cours menée par le parquet de Cherbourg sur le chantier de l'EPR. Après le constat par l'ASN qu'un accident de travail sur 4 n'avait pas été déclaré en 2010 sur le chantier de l'EPR. Je répète, c'est trop beau. Constat de l'ASN qu'un accident de travail sur 4, hein, donc 25% des accidents, n'ont pas été déclarés en 2010 sur le chantier de l'EPR. Voilà, je crois que nous avons fini la première partie de cette série pour démarrer l'année un peu plus joyeusement. On va parler d'autre chose, mais je reviendrai d'ici les vacances de février, je reviendrai sur cette brochure d'Utopia qui est épatante et où des interviews de spécialistes de haut niveau et des spécialistes passionnés et honnêtes donnent leur avis et donnent leurs idées pour se passer du nucléaire. Lutter contre les idées reçues et sortir du nucléaire. Donc, ce sera notre programme, disons, de février. Et puis, pour la semaine prochaine, j'espère... Non, je ne dirais pas vous remonter le moral, mais simplement montrer des choses cachées qui sont peut-être moins terribles que le nucléaire. Mais bon, on ne se refait pas, hein. Je ne vous invite pas tous les jours à aller danser, hein. Eh ben, la prochaine fois, même si je veux vous changer les idées, ça ne sera pas rigolo non plus. Ben, faut savoir si on veut tomber dans le trou les yeux fermés ou garder les yeux ouverts et essayer de s'en sortir. Voilà. Merci de me supporter. Merci de votre écoute. Passez un bon réveillon. Et tous mes vœux pour tout le monde. À bientôt.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.